cours de philosophie critique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 12 décembre 1991.
Les sciences positives sont-elles une forme de connaissance symbolique? Je renvoie à celui qui travaille les degrés des sciences. Il y a quelque chose de juste en ce sens que la formalisation des sciences positives emprunte aux mathématiques. Par les mathématiques, cherche des modèles. Et ce modèle est une connaissance symbolique. Je ne vais pas plus loin pour discuter, parce que ce serait très intéressant comme question. Mais on essaie de refaire entre nous et pour nous les degrés du savoir. Se fait-il que je puisse poser un jugement d'existence sur une réalité existante que je ne connais pas, dont j'ignore l'acuité? L'appréhension d'acuité est-elle nécessaire pour poser un jugement d'existence sur une réalité existante? Je dis oui, donc je ne comprends pas si oui. comment se fait-il que je puisse poser un jugement d'existence sur une réalité existence que je ne connais pas, dont j'ignore l'acuité, et dont je connais l'acuité de Pierre. Il est homme. Je le connais plus ou moins avec plus ou moins de précision, mais de façon vague, c'est suffisant. Pierre est un homme. Et quand je dis Pierre existe, Pierre est un homme est impliqué dedans. Donc, l'appréhension d'acuité est impliquée dedans. Je peux dire ceci est sans connaître ce qu'est le ceci. Non, ça n'aurait aucun sens. Le ceci est nécessairement une vache, ou Pierre, ou un crapaud. Ça dépend de l'imagination de chacun. C'est impossible autrement. Autrement, il ne pourrait pas exister. Mais j'explicite pas. Donc, c'est à l'état implicite. Mais ceci représente toujours quelque chose que je montre. Ceci, cette dame existe. Ceci existe. Quand je vois une vache, ceci existe. Quand je vois un singe, ceci existe. Un hippopotame, ceci existe. Le ceci, vous voyez, s'explicite dans l'hippopotame, ça n'a aucune importance. C'est toujours quelque chose de quantitatif. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas dans la question confusion entre quidité et concept? Tel que ça a l'air d'être formulé. Non. Le concept, finalement, je peux petit à petit l'expliciter.
Dès que je parle, il y a un concept. Et la parole exprime ce que je pense. Ceci est une proposition. Ceci exprime un nom. Si ceci a une signification, nécessairement, j'ai un certain concept d'une certaine quidité. Mais ça peut être très confus. Dans le brouillard, je vois quelque chose. Je dis attention, c'est peut-être une auto qui vient vers nous. Ah non, il n'y a pas de phare, il y a des phares rouges. Et puis tout de suite, vous précisez. Il faut comprendre que tout jugement implique une appréhension. Puisque l'appréhension, je la saisis à partir du jugement. Donc tout jugement implique une appréhension. Autrement, ce ne serait pas un jugement intellectuel, oui.
L'appréhension saisit l'acuité.
Quoi ?
L'appréhension saisit l'acuité.
Toute appréhension saisit une certaine acuité.
Mais je distingue quand même l'existé et l'acuité. Quand je porte un jugement d'existence, je porte sur l'existé.
Oui, mais ça n'a pas d'importance. C'est pour ça que je dis, c'est implicite. Quand vous dites ceci est, bon, vous pouvez mettre l'accent sur ceci ou sur est. Mais ceci est toujours présent. Vous ne dites pas.
Je peux ne pas connaître le ceci.
Ne pas le connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas expliciter votre connaissance. Mais vous le connaissez puisque vous dites ceci. Si vous ne le connaissiez pas, vous diriez pas rien. Vous diriez eh. Puisque ceci, je l'ignore. Or, vous dites, ceci est. Bon, c'est très vrai. Vous ne précisez pas dans le ceci. On a des connaissances vagues, implicites. Ça existe, ça. Le vagum des scolastiques. Le vagum, ça exprime très bien. C'est encore beaucoup mieux qu'en français. Parce qu'on a envie de vomir. Le ceci est tout à fait implicite. Tout à fait. Vous ne vous intéressez pas. Oui, mais c'est quand même un acte. Et c'est implicite. C'est pour ça que vous pouvez mettre vos vaches, cochons, tout ce que vous voulez. Ça m'est égal, c'est toujours un ceci. Donc il y a une connaissance vague. connaissance vague implique une appréhension. Oui.
Dans un jugement d'existence, est-ce qu'il y a une appréhension de ens, de l'exister?
Venez. Par l'acuité. Puisque l'acuité, c'est le do di en einein. Donc einein, ens, l'être. Mais c'est le di en que je mets en lumière. Vous voyez? Je laisse tomber le do einein. Donc l'appréhension n'explicite pas le ens, mais la détermination, ceci. Vous voyez tout ça? Très important. Vous voyez, n'oubliez jamais hein, que j'explicite en critique ce qui dans ma vie quotidienne est vécu au niveau du jugement. Ceci est. J'explicite l'appréhension. Et la critique explicite l'appréhension. Qui est complètement télescopée dans le vécu. C'est pour ça que vous mettez tout l'accent sur elle. Mais ceci est quand même présent. Je ne le nie pas. Oui. Si je nie ceci, je dirais ceci n'est pas. Alors à ce moment-là, vous idéalisez le ceci. Ceci peut exister dans votre intelligence, mais il n'est pas. Oui, alors vous niez. Vous le rejetez. Alors on continue. On en était resté, je crois, à la question. Toujours on creuse pour bien voir ce qu'est l'appréhension. Au plan critique, ce premier acte de ma vie intellectuelle, premier comme élément, pas premier comme séparé, comme un élément. Qui n'existe que dans le jugement, mais qui a quand même sa propre structure comme un élément. C'est pour ça que je dis un élément. Il a sa propre structure. Quelle est la structure de ce premier moment de ma vie intellectuelle? Voilà la question. Quelle est la structure de ce premier moment de ma vie intellectuelle dont je n'ai pas une expérience immédiate? J'ai l'expérience du jugement. Et en analysant le jugement, je vois qu'il faut poser l'appréhension. Donc ne cherchez pas d'avoir l'expérience de l'appréhension. Mais comprenez que dans l'analyse critique, je suis obligé de poser l'appréhension. Il faut être très conscient de ce qu'on fait en philosophie. Hein. Le philosophe doit pouvoir justifier à chaque instant ce qu'il affirme. C'est ça la très grande lucidité de la philosophie. Je sais que je suis en métaphysique, en critique, en sagesse, jugement de sagesse. Je sais que je suis en philosophie du vivant. En philosophie du vivant, je ne pourrais pas poser l'appréhension comme un acte séparé. Je dirais tout simplement qu'il y a des jugements qui portent sur l'exister. Il y a des jugements qui dépassent l'exister. Il est possible que demain il neige. Il est possible. Quand je dis il est possible, mon jugement dépasse le fait actuel. Il a neigé il y a quelques jours à tel endroit. Ça dépasse le jugement actuel du futur, du passé. Or, il a neigé il y a quelques jours, c'est passé. C'est très je dépasse le fait exister. C'est très important de comprendre ça. Si mon jugement peut porter sur ce qui est, sur ce qui a été, ce qui sera, ça prouve que mon jugement peut dépasser le fait actuel, présent. Et comment puis-je faire ça? C'est parce que l'appréhension saisit une quiddité qui, elle, est au-delà dans sa signification de l'instant présent. Oui, je vois donc qu'il est absolument nécessaire dans ma vie intellectuelle d'opposer l'appréhension. Et que cette appréhension est le premier moment de ma vie intellectuelle. Elle n'existe jamais séparée, elle existe toujours dans un jugement. Mais elle est un premier moment qui a sa structure propre. Quelle est la structure de l'appréhension? La structure de l'appréhension, c'est un mode d'assimilation. Lisez ce que Sartre dit dans Situation. Je ne sais plus quelle page, n'importe peu, vous trouverez vite. Sartre critique violemment cette philosophie de l'assimilation, qui est une philosophie exactement comme celui qui mange. Mangez le petit livre. Et Sartre n'aime pas de manger le petit livre. Sartre ne veut pas de cette philosophie de l'assimilation. Il n'a pas compris du tout. Il n'a pas compris du tout. Alors il dit, quand je dis arbre, j'embrasse l'arbre. Donc, il est pour la philosophie de l'embrassement et non pas de l'assimilation. Pour lui, la connaissance est embrassée. Je ne connais quelqu'un que quand j'embrasse. Oui, connaissance affective. C'est très curieux. Mais la connaissance affective implique encore l'assimilation. Parce que pour embrasser quelqu'un, il faut que je le connaisse. Normalement, autrement je me casse la tête. Dans le noir, j'embrasse un arbre. Je ne connais pas. J'avais pas vu que c'était un arbre. J'embrasse. Alors, je laisse ça de côté, mais c'est intéressant. Vous pouvez montrer que c'est très actuel, il faut répondre à ça. C'est pas du tout du passé que je fais, c'est l'actuel. Si je veux répondre à Sartre et à tout l'existentialisme, et je dirais même à Hegel, il faut aller jusque-là, comprendre le premier moment de ma vie intellectuelle, c'est appréhender, connaître, c'est devenir l'autre. Et c'est pour ça qu'on cherche indéfiniment comment connaître l'autre, Lévinas. Parce qu'ils ont oublié l'appréhension. Déjà depuis longtemps, on a oublié l'appréhension. On n'a pas fait attention qu'avant tout jugement, il y a une appréhension. Et que le propre de l'appréhension, c'est de devenir. Qu'est-ce que c'est de cette réalité existante? Le mode propre de l'appréhension, le type de connaissance de l'appréhension, c'est d'assimiler. Assimiler ce qu'est la réalité qui est en présence de moi. Et je disais, en terminant, assimilation intentionnelle. Pourquoi ? Parce que, en réalité, en assimilant, en connaissant l'autre, je ne le détruis pas. La différence avec l'assimilation biologique, quand vous mangez une carotte, vous détruisez la carotte. Vous l'ennoblissez. Respecte l'autre. On connaît l'autre. On le on assimile et on ne détruit pas. Alors ça, c'est l'intentionnalité de l'intelligence. Alors j'ai expliqué déjà un tout petit peu ce que c'est que l'intentionnalité. Vous avez des degrés d'intentionnalité. Mais dès que la vie apparaît, vous avez, vous, pour montrer le hiatus qui existe entre ce qui est et le vivant, vous inventez un mot qui est l'intentionnalité. La graine, un gland, est intentionnellement un chêne. Tout le chêne est dans le gland. La semence, le grain de blé. C'est extraordinaire, ça. Il faut expliquer ça. Comment expliquer que ce gland va devenir un grand arbre et que déjà dans ce gland, toute l'organisation du chêne est présente. Elle va s'expliciter. Ça, vous n'expliquez pas. Scientifiquement, vous n'expliquez pas. Et philosophiquement, vous le constatez et vous mettez le doigt dessus en disant la vie a une immanence, une intériorité.
Facile à comprendre. Vous voyez ? Parce que la scolastique dira tout simplement
species, mais species, ça vous dit rien du tout. Forme, c'est quand même une détermination. La forme intentionnelle, c'est dans mon intelligence. Ce que la quiddité de la réalité expérimentée c'est la quiddité de la réalité expérimentée. Cette quiddité va être présente et cette forme intentionnelle va être assimilée. Mon intelligence va assimiler cette forme intentionnelle. J'aurai ici la forme assimilée. Et c'est ce qu'on appelle le concept. Ce qu'on appelle en scolastique, et saint Thomas l'appelle comme ça, species expressa. Ici, il dira species impressa. Alors ça, c'est la scolastique. C'est du saint Thomas. Saint Thomas dit species impressa, species expressa. Je crois qu'aujourd'hui, il faut dire forme intentionnelle qui spécifie, qui détermine intelligence. Forme intentionnelle, assimiler le concept. Et j'analyse l'assimilation intentionnelle de l'appréhension. Cette assimilation exige de poser une détermination dans l'intelligence, la forme intentionnelle. Et comme cette forme intentionnelle détermine intelligence qui va réagir étant déterminée. Elle va concevoir. C'est pour ça que saint Thomas, dans le contrat, dans le Compendium Theologiae, dira que l'intelligence va être informée par cette forme intentionnelle. Et l'intelligence informée par cette forme intentionnelle va l'assimiler et elle va concevoir. C'est pour ça qu'on dit concept, cette forme intentionnelle assimilée, qui, elle, signifie la quiddité de la réalité. Et cette forme assimilée, je la transmettrai par la parole. Assimiler la quiddité du blanc dans la réalité, c'est-à-dire le mur blanc. Blanc a une certaine quiddité, c'est une qualité. C'est la qualité du mur, il est blanc. Cette quiddité, alors la grosse question, comment se fait ce passage de cette quiddité à la forme intentionnelle? C'est très bien de poser cette forme intentionnelle. Je la pose parce que l'appréhension est une assimilation intentionnelle. Alors, dernière question, comment le passage de la quiddité à cette forme intentionnelle? Puisque j'ai posé la nécessité de cette forme intentionnelle, dont je n'ai pas l'expérience. Je la pose à partir de l'analyse. Vous voyez, ce qui est très important dans cette analyse, c'est de voir ce que j'expérimente et ce qui est le fruit d'une analyse critique. Qu'est-ce qui est expérimenté? le plan du mur. Qu'est-ce qui est expérimenté? Je parle de ce plan. Et ma parole qui dit ce plan renvoie au plan du mur que j'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté et je connais ce plan. Je peux dire le plan du mur. Pour moi, ça a une signification. Qu'est-ce que c'est que cette signification? Ça provient de cette quiddité, cette détermination dans la réalité expérimentée. Le plan du mur. Pour expliquer comment je connais ce plan du mur que je vois, que j'ai vu et que je vois, dont j'essaie de comprendre ce qu'il est. Et pour comprendre ce qu'il est, mon intelligence essaie de saisir ce que c'est que ce blanc, ce que c'est que cette détermination particulière, cette qualité particulière. Alors là, vous comprenez bien la multitude des expériences, le blanc du mur, le blanc du visage, le blanc de la chemise, le blanc, et ainsi de suite. Faites tout ce que vous voulez comme détermination. Vous avez un tas d'expériences de blanc, le blanc de la neige, le blanc de la lune, l'éclat de la lune blanche, et ainsi de suite, toutes les expériences que vous avez, le blanc, et vous saisissez quelque chose de particulier, ça a une signification spéciale, blanc est autre chose que rouge, et c'est pas conventionnel, c'est réel, le vert est autre chose que le rouge. Assimiler quelque chose exige que, au point de départ, il y ait telle détermination et au terme, la même détermination dans un autre état. Vous assimilez des carottes, mais il faut que les carottes soient là. N'allez pas vous asseoir, imaginez des carottes. Vous voyez, il n'y a pas eu de repas parce que le cuisinier était malade. Alors on a dit, écoutez, vous ferez un repas imaginatif. Alors, carotte. Méditez sur la carotte. Et vous l'assimilez. Imaginativement. C'est quand même pas la même chose que de la manger. Celui qui dit que c'est la même chose, on lui dit, quelque chose qui va plus. Quelque chose qui va plus. Il s'imagine des carottes. Et il prend un très bon repas. C'est vrai, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit ça, ça ne marche plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a identifié cette assimilation imaginative à la réalité. Alors, c'est quand même important de comprendre d'où vient cette forme intentionnelle. Comment elle va, à partir de l'expérience, elle va apparaître dans mon intelligence. Je me pose la question, vous voyez, et je dis, l'expérience me donne une image. Une une image de blanc du mur par l'expérience. Et cette image qui représente le blanc du mur, cette image va me permettre de découvrir l'eidos, la forme, sous l'action de quelque chose, d'une certaine illumination intérieure. Et c'est là où Aristote pose l'intellect agent. On verra ça la fois prochaine. Mais je le pose, hein. C'est une démonstration a posteriori. Je vois deux choses qui existent. Il faut donc une cause qui unit les deux. Et cette cause qui unit les deux est de l'ordre de la vie de l'intelligence. Et j'appelle